22h à Abuja, 21h à Conakry et à Dakar. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission avec le Nigeria. Quelles raisons peuvent-elles expliquer l'échec du gouvernement nigérian face à Boko Haram ? Nous serons au Tchad pour notre dossier.
Si on vient aujourd'hui, on casse la maison, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être je vais me retrouver à Kundul ou bien à Glendé là-bas et l'école des enfants. Et aussi avec l'approche de la saison pluvieuse, ça nous fait vraiment penser beaucoup plus.
Le Tchad, où la plupart des habitants préfèrent acheter des terrains avec des chefs traditionnels, ce qui occasionne des problèmes de titres de propriété. Enfin, dans notre rubrique African Voice, nous entendrons la réponse d'Ali Haïdar, ministre sénégalais de la pêche, suite à la grogne des pêcheurs traditionnels, déclenchée par l'accord signé entre l'État et l'Union européenne. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, au micro Bagassikoura. Un légionnaire français a été tué hier soir dans le nord-est du Mali. Le véhicule à bord duquel il s'est trouvé a sauté sur un engin explosif. Sept candidats sont sur la ligne de départ pour la présidentielle mauritanienne du 21 juin. Le grand favori du scrutin demeure le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Les législatives sud-africaines, le comptage des voix est en cours suite au scrutin de mercredi. L'ANC, bien sûr, reste favori, d'autant qu'avec un peu plus de la moitié des votes dépouillés, le Congrès national africain semble en tête. Conflit sud-soudanais, le chef rebelle Riek Machar est arrivé à Addis Abeba pour s'entretenir avec le président Salva Kiir qui devrait le rejoindre demain en Éthiopie. Il s'agit des premiers pour parler direct depuis le début des combats en décembre. Par ailleurs, il semble que des crimes contre l'humanité aient été commis au Soudan du Sud. C'est ce qu'indique ce jeudi la mission de l'ONU dans le pays. Un RCA arrivé ce soir à Bangui de la première mission de la CPI pour une enquête préliminaire sur les crimes commis depuis 2012 dans le pays. Pendant ce temps, regain de tension dans la localité de Grimari, c'est dans le centre-est du pays. Des hommes armés ont brûlé hier plusieurs villages. Par ailleurs, les leaders des ex-Séléka sont en congrès à Ndélé, dans le nord. Les réactions de la communauté internationale se multiplient suite à l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria le mois dernier. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, et l'ancienne secrétaire d'État, Hillary Clinton, montent aussi au créneau. Sur les médias sociaux, Madame Obama a posté une photo d'elle avec une pancarte sur laquelle elle adresse son soutien aux victimes et leurs familles. Madame Clinton, elle, a exprimé son indignation lors d'une interview. Rappelons que 276 jeunes filles ont été enlevées de leur école dans le nord du Nigeria, des rapes revendiquées par Boko Haram.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Succès symbolique pour le régime syrien. Les derniers rebelles ont quitté Homs aujourd'hui. Une ville que beaucoup considèrent comme la capitale de la révolution anti-Bachar al-Assad. Par ailleurs, un bâtiment historique a été le théâtre d'une explosion dans la vieille ville d'Alep. Il s'agit du Carlton Hotel, datant d'il y a 150 ans. Les rebelles sont pointés du doigt et d'après la société de presse, le front islamique a revendiqué l'attaque. Au moins 9 soldats paramilitaires ont été tués dans une explosion dans le nord-ouest du Pakistan. Plusieurs autres soldats voyageant dans le convoi ont été blessés. D'après les autorités, la bombe était placée en bordure d'une route dans le nord au Waziristan, près de la frontière afghane, un bastion des talibans. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, intervient alors que les talibans pakistanais ont mis fin au cessez-le-feu avec le gouvernement. Et puis l'Afghanistan, les forces internationales et les fonctionnaires de haut rang sont dans le viseur des talibans. Dans un communiqué publié sur leur site internet, les talibans annoncent que leur offensive de printemps nommée Khyber débutera le 12 mai. L'organisation islamique indique que leurs attaques doivent infliger le maximum de pertes sur les envahisseurs tout en évitant de causer des dégâts humains et financiers aux citoyens ordinaires. Des déclarations qui interviennent alors que les forces internationales de combat doivent terminer leur retrait d'Afghanistan d'ici la fin de l'année.
Au Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission avec la seconde partie de notre interview consacrée à la montée du terrorisme au Nigeria. Comment expliquer que le gouvernement nigérian soit impuissant à contrer Boko Haram ? N'est-ce qu'une mauvaise stratégie militaire ? Ou y a-t-il des raisons plus économiques ? Ce sont les questions qu'a posées Bagassi Koura à Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Le problème, il est toujours ailleurs que sur le plan militaire. Le militaire, c'est ce qui est la solution quand il y a de la violence extrême, mais qui ne s'en prend jamais aux causes. Alors derrière, il y a évidemment l'extrémisme religieux qui s'est développé au Nigeria, puisque Boko Haram avait comme objectif premier d'instaurer la charia dans 12 États. Il y a donc des enjeux qui sont des enjeux anti-occidentaux et des enjeux pour un islamisme radical, mais il y a vraisemblablement aussi d'autres enjeux qui sont notamment des enjeux politiques. Il faut savoir que l'essentiel de l'économie du Nigeria et de la richesse se trouve au sud, notamment dans le delta du Niger, qui a un problème de partage de la rente pétrolière qui se pose, qu'évidemment il y a beaucoup moins d'opportunités au nord du Nigeria, et donc il y a aussi des revendications qui peuvent avoir une base de type économique, sans compter le fait que dans l'histoire coloniale, on dit que souvent dans les régions, ce sont plutôt les chrétiens qui ont été avantagés parce qu'ils ont eu plus de possibilités d'accès à l'école ou d'accès à des emplois d'administration à la terre. Souvent, les musulmans sont en fait plutôt des nomades, ceux qui sont moins scolarisés, donc il peut y avoir aussi des revendications de type social qui prennent une forme religieuse. Alors ceci étant, Boko Haram, évidemment, est dans l'extrême, dans une relation d'un islamisme radical extrême qui renvoie au terrorisme et vraisemblablement à des liens avec des réseaux djihadistes.
Alors, Obama a envoyé quand même une équipe sur place. Est-ce qu'on peut s'attendre, vous avez parlé de renseignements, mais est-ce qu'on peut s'attendre aussi à voir des drones en action comme en Afghanistan ou au Pakistan ?
Oui, c'est vraisemblable. Je parlais d'actions de renseignement. Là-dessus, les Américains, évidemment, sont les plus armés et les mieux armés pour donner du renseignement. Les drones peuvent servir d'ailleurs à donner du renseignement. On peut avoir aussi des actions par des services spéciaux ou des forces spéciales. À mon avis, c'est envisagé, mais on ne le saura pas nécessairement. D'autre part, il y a effectivement la possibilité d'utiliser des drones à des fins d'attaque de responsables. Ça a été fait, comme vous l'avez rappelé, en Afghanistan. Ça a été utilisé au Mali pour lutter contre les djihadistes. Et vraisemblablement, je pense que ça sera un appui technologique où les États-Unis sont évidemment particulièrement en avance sur les autres puissances.
Et pour l'instant, la France ne va pas s'engager là-bas, hein, vu qu'elle est déjà en Centrafrique et au Mali.
Si vous voulez, la France, François Hollande a rendu visite il y a un peu plus de 2 mois à Goodluck Jonathan au Nigeria et a parlé d'une coopération notamment de lutte contre le terrorisme. Le Nigeria est présent au Mali d'une certaine manière, il l'est avec ses moyens. Je pense personnellement qu'il y aura peut-être une coopération notamment pour l'encadrement des forces spéciales ou des forces antiterroristes sur lesquelles la France est aussi relativement compétente en termes stratégiques. Je ne sais pas du tout quelles sont les conditions de la coopération française. Je sais qu'en tout cas, Goodluck Jonathan, à l'opposé de la politique traditionnelle du Nigeria qui est de privilégier la souveraineté nationale, ne pas faire appel à des extérieurs et notamment des occidentaux, je pense que dans le cas présent, il a demandé aussi l'aide de la France.
Et puis peut-être appuyer les capacités du Niger et du Cameroun, hein ?
Évidemment, et ça passe, j'en ai pas parlé, par les appuis des pays voisins. En fait, il y a 3 pays concernés, le Niger, le Tchad et le Cameroun, puisque Boko Haram est implanté au nord Cameroun actuellement.
Philippe Hugon, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nous sommes donc au Tchad pour notre dossier, le Tchad où la plupart des habitants, même en zone urbaine, préfèrent acheter des terrains avec les chefs traditionnels et y bâtir des habitations. C'est alors que le service des cadastres intervient pour restructurer ces quartiers habités en traçant des rues ou en laissant des espaces verts, des écoles, des hôpitaux ou même des commissariats de police. Des travaux qui ne sont pas toujours du goût des habitants, qui ont payé cher leur accès à la propriété. Reportage de notre correspondant au Tchad, François Djekombe.
Déguerpissement ou expropriation en Djamena, un phénomène qui ne finit jamais. Au quartier Atron et Ambata actuellement, le phénomène prend le nom de restructuration. Si la population qui s'est installée sur ces terrains non viabilisés à elle-même souhaitait cette restructuration pour se situer, l'ampleur qu'elle prend l'inquiète. Des milliers de maisons sont badigeonnées et un délai très court, allant de 10 à 15 jours, est souvent donné aux propriétaires pour évacuer. C'est le cas de Sadio Wami, enseignant de son état, dont la maison se trouverait sur une réserve de l'état.
S'ils peuvent nous laisser un temps afin que nous puissions continuer juste pour finir l'année avec les enfants là, sinon venir casser aussitôt là. Alors, par exemple, moi je suis ici, alors si on vient aujourd'hui, on casse la maison, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être je vais me retrouver à Kundul ou bien à Glendé là-bas et l'école des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont aussi dans des écoles privées et aussi avec l'approche de la saison pluvieuse, ça nous fait vraiment penser beaucoup plus.
Pour échapper à la longue et onéreuse procédure légale d'acquisition des terrains, les citoyens se tournent généralement vers les boulamas, ces chefs de terre qui engagent une procédure expéditive de vente consistant à prendre les dimensions du terrain en comptant des pas et à délivrer une attestation de vente science tenante. Barré a pu acquérir avec le boulama au quartier Mbata une parcelle qu'il compte exploiter. Mais l'équipe de restructuration qui se rapproche de son terrain lui donne des soucis.
Voilà qu'aujourd'hui, on a investi, on a acheté le terrain avec les boulamas, bien sûr. On dit c'est sauvage, mais on n'avait pas de moyens pour acheter les terrains bornés et autres. Alors maintenant, on te demande de quitter sans te donner une rémunération, ni on te met dans la rue de la sorte. Djamena ne se situe pas seulement au niveau de Moursal ou bien au niveau de Chagua. Même Bakara, je peux dire que Bakara est dans Djamena au 7e arrondissement. Donc ils ont intérêt à tracer les rues là, au-delà de Bakara, pour que même si tu investis 500 000, tu es bien poché.
La vente des terrains par les boulamas jugés anarchiques a été officiellement suspendue par le gouvernement. Mais elle se poursuit sous une forme ou sous une autre. Selon la loi, la terre appartient à l'État. Pour faciliter l'acquisition des terrains, le ministère de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines a mis sur pied le guichet unique pour centraliser et faciliter la procédure. Bruno Ndungaba, un des responsables du guichet unique, explique la procédure à suivre pour obtenir un terrain au Tchad.
La procédure légale est celle qui vient de la CADZU. La CADZU, c'est la commission d'attribution des terrains en zone urbaine qui octroie des terrains aux demandeurs, ceux qui ont préalablement introduit une demande et qui ont été sélectionnés et catégorisés. Après une sélection, un terrain leur est attribué sur un site donné. Après l'attribution, on vous fournit une fiche d'attribution provisoire qui vous permet d'engager la procédure de régularisation de vos terrains.
N'Djamena, François Ndjekombe, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique et sur le 93.1 FM, notre fréquence à N'Djamena. Rubrique African Voice pour finir l'émission et aujourd'hui nous sommes au Sénégal où plusieurs groupements de pêcheurs artisanaux contestent l'accord signé fin avril entre l'État du Sénégal et l'Union européenne. Cet accord permet à 38 navires européens de pêcher quelque 14 000 tonnes de thon pendant 5 ans dans les eaux sénégalaises. Sur le contenu de l'accord, Idriss Fall a joint Ali Haïdar, ministre sénégalais de la pêche.
En fait, depuis 2006, il existe des accords qui autorisent à des bateaux de l'Union européenne de pêcher dans nos eaux. Ces accords que Diboka avait signés ont été reconduits par tous les ministres qui sont passés depuis que je suis arrivé. Donc, Souleymane Néné, Kourey Sitam, même mon collègue et ami Pape Diouf et moi-même, je l'ai signé. Mais quand je l'ai signé, j'ai dit que des accords exceptionnels qui permettent à des bateaux européens de pêcher le thon chez nous, sans payer de compense financière, c'est quelque chose d'illégal. Parce que la loi au Sénégal est très claire. Elle dit que c'est de pays à pays que nous pouvons négocier un accord. Ce n'est pas de pays, Sénégal, à armateurs, les bateaux espagnols ou les bateaux français. Donc, j'ai arrêté ces accords exceptionnels et j'ai demandé à l'Union européenne de s'asseoir à la table pour nous payer une compense financière parce que depuis 2006, je vous dis, ils pêchent le thon chez nous. Il n'y a pas de nouveauté. La nouveauté, c'est qu'ils vont payer une compense financière pour ce thon qu'ils pêchent.
Et ils payent combien?
Ça, c'est une première dans l'histoire des négociations. Une compense financière pour le thon pêché, les 14 000 tonnes, de 15 millions d'euros sur les 5 ans, et aussi un accompagnement au niveau du DG développement sur 4 axes prioritaires que sont la recherche, la surveillance, un projet de fonds social pour accompagner la pêche artisanale, parce que tout souvent, il y a des calamités, et la pêche artisanale n'est pas assurée. Et enfin, un quatrième projet très important à mon sens, qui est la restauration des écosystèmes dégradés de juvéniles. Parce que trop souvent, on pêche des petits poissons qui ne se sont jamais reproduits, qui n'ont pas pu grandir. Donc, nous allons restaurer ces écosystèmes de sorte à protéger ces juvéniles. Nous avons négocié avec le DG MAR, 15 millions d'euros, et avec le DG Développement, ces quatre projets prioritaires pour le ministère vont tourner autour de 50 millions d'euros.
Mais pourquoi cet accord soulève donc la colère des pêcheurs traditionnels?
Je vais vous dire, il y a une manipulation du GAIPS qui se sert de Greenpeace et cette manipulation veut faire croire que c'est la pêche artisanale qui se soulève. La pêche artisanale, je n'ai aucun problème avec eux. C'est parce que les accords d'avant servaient par exemple le GAIPS qui a à un moment touché 190 euros par tonne débarquée, donc une société privée qui touchait 190 euros par tonne débarquée, soi-disant c'est des frais d'approche, alors que cela n'est pas versé à l'État du Sénégal. Donc c'est le lobby qui tirait profit de ces accords soi-disant secrets avant. C'est eux qui montent au créneau parce qu'ils ne sont pas contents. Maintenant, on paye à l'État du Sénégal. Et voilà, moi je travaille pour l'avenir de la pêche artisanale, pour le devenir des pêcheurs artisans. Donc je dis, il faut payer à l'État pour que l'État puisse subvenir aux besoins des pêcheurs.
Ali Haïdar, ministre sénégalais de la pêche. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la console, Michel Joseph. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec le Sénégalais Fahada Freddy qui interprète ici Little Black Sandal. He says he'll let go. If only I'd ask it of him. He said, go. Rendez-vous demain à 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique, ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. These little black sandals are walking me away. These little black sandals are heading the right way. These little black sandals are walking me away. These little black sandals saved my life today. So now I'm free, free from the big black giant who was stalking me. Thank you, fears, for guiding me. I'm glad somehow I got brains down there at least. These little black sandals are walking me away. Little black sandals are heading the right way. These little black sandals are walking me away. These little black sandals saved my life today. Sometimes I'm tempted, sometimes I would be lying if I say I didn't miss that giant man. He was the line between pleasure and pain, but me and my feet have some years to reclaim. These little black sandals are walking me away. These little black sandals are heading right away. Little black sandals are walking me away. These little black sandals saved my life today. These little black sandals.
La Voix de l'Amérique vous propose maintenant un dossier spécial sur la République centrafricaine.
Morgane Guiriec et Timothée Donangmaï pour cette page spéciale RCA de La Voix de l'Amérique.
En RCA.